Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Narcisse, maintenant, adieu Narcisse, avec Marjorie qu'on vient d'entendre en musique, Ariane Roy et Valence juste avant, avec Charlie. Sarah, je me tourne vers toi, tu voulais, vous avez parlé d'eau en fait lundi, et est-ce que c'est une suite puisque tu nous parles des problèmes hydriques en Chine ce matin?
J'ai mis un petit point d'interrogation avant le titre de ma chronique puisque je ne l'ai pas exactement préparé, mais ça va faire aussi un parallèle avec la chronique de William lundi passé, qui disait qu'en fait, le Canada était le seul pays au monde qui, d'ici 2050, là, si je me souviens bien, ne va pas être en manque d'eau, puisqu'on possède 20% des réserves d'eau mondiales ici, puis tantôt aussi avec la présence d'Olivier Champagne-Poirier du Climatoscope, qui nous parle encore un peu de la détresse environnementale ou des sujets environnementaux discutés. Puis qu'on parlait aussi un petit peu tantôt de l'ouragan Milton qui fait rage au sud de la Floride, bien la Chine, elle aussi, va faire face à des problèmes hydriques imminents aujourd'hui. On sait que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Puis la Chine est aussi traversée d'est en ouest par le fleuve jaune au nord, puis le fleuve bleu. Cependant, ces fleuves-là, pendant toute l'histoire de la Chine, ont été vraiment les poumons, le cœur du pays pour la transportation de biens ou la pratique de pêche. Puis la Chine se dit que c'est un peuple fluvial, comme je viens de dire. Puis avec le temps, la Chine a décidé de prendre expansion vers la mer. Puis on peut penser récemment aussi à la ligne des neuf traits qui s'est faite avec dans la mer méridionale, que la Chine veut étendre son influence géopolitique en créant des îles artificielles pour étendre sa zone d'influence encore, des centres touristiques, etc. Puis, au fil des années encore, le déplacement démographique de la Chine, on s'en va de plus en plus vers les côtes. Ça va faire en sorte qu'un délaissement des campagnes, aujourd'hui, c'est estimé que 94% des gens vont habiter sur une côte chinoise dans une ville peuplée. Puis ça va faire une rupture à la tradition chinoise qui était de l'élevage, puis on peut penser le classique rizière. Puis jusqu'à très récemment encore, la Chine va commencer à importer des biens alimentaires comme du soya qu'elle produit abondamment, mais là, doit se tourner vers ça. Puis si la Chine est une très grande importatrice de porc. C'est-à-dire que si la Chine a connu des déplacements qui se sont tournés davantage vers les côtes, bien l'intérieur, lui, s'est vidé. Puis les terres se sont asséchées, les terres se sont épuisées, il y a eu trop de pesticides usés, on a trop accéléré le rendement des terres. Puis aujourd'hui, les terres sont plus utilisées ou rentables. Puis c'est la même chose aussi avec les lacs. Puis c'est pour ça qu'il y a un problème hydrique en ce moment en Chine. Ça serait estimé que c'est 30% des lacs, puis des cours d'eau, donc les rivières aussi, qui sont impraticables pour la consommation humaine, c'est-à-dire pêche ou juste, même après un traitement, à cause, ça peut être des métaux lourds. On sait aussi que la Chine va produire énormément de charbon.
Ouais.
Donc les problèmes hydriques de la Chine surviennent. Dans les pistes de solutions possibles, je dis solutions possibles parce que ça serait d'aller envahir le Tibet qui possède d'immenses réserves d'eau étant donné l'Himalaya puis des fontes. Parce que les solutions à l'intérieur de la Chine en ce moment, c'est de pomper la nappe phréatique, mais ça accélère d'autres conséquences. Donc, il n'y a pas de solution miracle.
Non.
Par contre, il y a un environnementaliste ou ingénieur ici chinois qui avait proposé des villes éponges en Chine.
Okay.
Puisque les villes en ce moment, c'est beaucoup de gros matériaux, du béton, des structures qui absorbent énormément la chaleur. Ça crée des îlots de chaleur urbains ici qui accentuent la pollution atmosphérique et de l'eau. Puis ça serait, selon des méthodes ancestrale japonaise, chinoise, désolé, pour récupérer l'eau avec des canaux d'irrigation, des tuyaux qui vont être utilisés pour que l'eau soit réutilisée. Parce que on n'y pensait pas, mais l'eau, c'est vraiment une ressource qui est précieuse. Puis pour nourrir l'appétit chinois par rapport à son manque d'eau, le pays a dû faire des compromis en ne signant pas notamment la convention sur l'eau qui était entre les pays de l'Union européenne puis les pays d'Asie centrale ou les pays d'Asie du Sud pour avoir un partage équitable. Puis ça remonte en 1952 quand Mao Zedong va dire, ben là, il va pas dire ça comme ça, il va dire, au Sud, en fait, ils ont toutes les richesses en eau, nous, au Nord, on souffre, donc c'est logique d'aller s'étendre vers ces pays-là puis leur demander de l'eau, notamment au Mékong, la rivière qui traverse la Thaïlande, le Cambodge, tous ces pays, puis le Tibet, comme j'avais mentionné. C'est aussi un déséquilibre dans le rapport de force par rapport à l'eau. J'ai pas le chiffre exact devant moi, mais je crois que c'est une personne qui habite en France va disposer de 600 fois plus d'eau qu'une personne qui habite à Pékin. Ça, c'est une eau potable dans la mesure du possible. Puis ça a été recensé récemment ici qu'il y aurait 20 millions d'enfants ici en Chine qui n'auraient pas accès à l'eau potable quotidienne. Donc, ça serait quoi ici les prochaines avenues, Alex? Ou...
Moi, ben comme tu dis, si au moins on commence à un peu regarder justement, à trouver des solutions et tout ça, c'est sûr que ben ils n'auront pas le choix, veut pas. Puis bon, l'ironie veut que oui, bon, on ait 20% des réserves mondiales en eau, mais il reste quand même qu'il y a des gens au Canada qui n'ont pas accès à de l'eau non plus. Exactement. Fait que ça, c'est pas, on s'en sort pas non plus, mais c'est sûr que la Chine, eux, dans leur cas, ben ils sont tellement de gens, tellement de personnes que ben, c'est sûr que l'eau, eux, vont leur manquer. Pas juste parce qu'ils ont moins d'accès, mais parce qu'ils sont tellement beaucoup que, comme tu le dis, il y a tellement d'enfants non plus qui n'ont pas accès à l'eau parce que, justement, ben il y en a pas. Je sais
puis
pas.
Les conséquences aussi d'avoir construit comme le barrage des Trois Gorges, le plus grand barrage hydroélectrique au monde, ça a causé beaucoup de déplacements. Puis aujourd'hui, ici, le débit des fleuves a ralenti. Okay. Donc, c'est aussi des conséquences des changements climatiques. Puis, autrefois, dans les plans vraiment pour une Chine puissante, c'était que tous les gens soient autosuffisants. Donc, autant alimentaire que financier, que tout ce que vous avez de besoin. Mais là, on retourne au principal, à la principale source de vie qui est en carence dans le pays le plus peuplé au monde.
Voilà. Très intéressant tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? La question est quand même assez vaste, mais bon, voilà, ça reste parmi, justement, ces nombreux problèmes qu'amènent les changements climatiques, notamment, mais pas que. Qui fait en sorte que, bon, le temps est compté, il faut agir beaucoup plus rapidement qu'on le fait déjà en ce moment. On s'arrête quelques instants au retour. Notre dernière chronique en ce 9 octobre sur les ondes de CFA 88.3.